Émile Zola, Nana. Chapitre 1er. À 9h, la salle du théâtre des variétés était encore vide. Quelques personnes, au balcon et à l'orchestre, attendaient, perdues parmi les fauteuils de velours grenat, dans le petit jour du lustre à demi-feu. Une ombre noyait la grande tache rouge du rideau, et pas un bruit ne venait de la scène. La rampe éteinte, les pupitres des musiciens débandés. En haut seulement, à la troisième galerie, autour de la rotonde du plafond où des femmes et des enfants nus prenaient leur volée dans un ciel verdi par le gaz, des appels et des rires sortaient d'un brouhaha continu de voix. Des têtes coiffées de bonnets et de casquettes s'étageaient sous les larges baies rondes encadrées d'or. Par moments, une ouvreuse se montrait, affairée, des coupons à la main, poussant devant elle un monsieur et une dame qui s'asseyaient, l'homme en habit, la femme mince et cambrée, promenant un lent regard. Deux jeunes gens parurent à l'orchestre. Ils se tinrent debout, regardant. « Que te disais-je, Hector ? » s'écria le plus âgé, un grand garçon à petite moustache noire. « Nous venons trop tôt. Tu aurais bien pu me laisser achever mon cigare. » Une ouvreuse passait. « Oh ! Monsieur Fauchery, » dit-elle familièrement, « ça ne commencera pas avant une demi-heure. » « Alors, pourquoi affiche-t-il pour 9h ?» murmura Hector, dont la longue figure maigre prit un air vexé. « Ce matin, Clarisse, qui est de la pièce, m'a encore juré qu'on commencerait à 9h précises. » Un instant, ils se turent, levant la tête, fouillant l'ombre des loges. Mais le papier vert dont elles étaient tapissées les assombrissait encore. En bas, sous la galerie, les baignoires s'enfonçaient dans une nuit complète. Aux loges de balcon, il n'y avait qu'une grosse dame, échouée sur le velours de la rampe. À droite et à gauche, entre de hautes colonnes, les avant-scènes restaient vides, drapées de lambrequins à longues franges. La salle, blanche et or, relevée de vert tendre, s'effaçait comme emplie d'une fine poussière par les flammes courtes du grand lustre de cristal. « Est-ce que tu as eu ton avant-scène pour Lucie ?» demanda Hector. « Oui, » répondit l'autre, « mais ça n'a pas été sans peine. Oh, il n'y a pas de danger que Lucie vienne trop tôt, elle. » Il étouffa un léger bâillement. Puis, après un silence, « Tu as de la chance, toi, qui n'as pas encore vu de première. La blonde Vénus sera l'événement de l'année. On en parle depuis 6 mois. Ah, mon cher, une musique, un chien. Bordenave, qui sait son affaire, a gardé ça pour l'exposition. » Hector écoutait religieusement. Il posa une question. « Et Nana, l'étoile nouvelle qui doit jouer Vénus, est-ce que tu la connais ?»« Allons bon, ça va recommencer !» cria Fauchery en jetant les bras en l'air. « Depuis ce matin, on m'assomme avec Nana. J'ai rencontré plus de 20 personnes, et Nana par-ci, et Nana par-là. Est-ce que je sais, moi ? Est-ce que je connais toutes les filles de Paris ? Nana est une invention de Bordenave. Ça doit être du propre !» Il se calma. Mais le vide de la salle, le demi-jour du lustre, ce recueillement d'églises, plein de chuchotantes et de battements de portes, l'agaçait. « Ah non, » dit-il tout à coup, « on se fait trop vieux ici. Moi, je sors. Nous allons peut-être trouver Bordenave en bas. Il nous donnera des détails. » En bas, dans le grand vestibule d'allée de marbre, où était installé le contrôle, le public commençait à se montrer. Par les 3 grilles ouvertes, on voyait passer la vie ardente des boulevards, qui grouillait et flambait sous la belle nuit d'avril. Des roulements de voitures s'arrêtaient court, des portières se refermaient bruyamment, et du monde entrait par petits groupes, stationnant devant le contrôle, montant, au fond, le double escalier, où les femmes s'attardaient avec un balancement de la taille. Dans la clarté crue du gaz, sur la nudité blafarde de cette salle, dont une maigre décoration en pierre faisait un péristyle de temple en carton, de hautes affiches jaunes s'étalaient violemment, avec le nom de « Nana » en grosses lettres noires. Des messieurs, comme accrochés au passage, les lisaient. D'autres, debout, causaient, barrant les portes. Tandis que près du bureau de location, un homme épais, à large face rasée, répondait brutalement aux personnes qui insistaient pour avoir des places. « Voilà Bourdenave !» dit Fauchery en descendant l'escalier. Mais le directeur l'avait aperçu. « Eh, vous êtes gentil !» lui cria-t-il de loin. « C'est comme ça que vous m'avez fait une chronique ? J'ai ouvert ce matin le Figaro, rien !»« Attendez donc !» répondit Fauchery. Et il faut bien que je connaisse votre nana avant de parler d'elle. Je n'ai rien promis, d'ailleurs. » Puis, pour couper court, il présenta son cousin, M. Hector de la Faloise, un jeune homme qui venait achever son éducation à Paris. Le directeur pesa le jeune homme d'un coup d'œil, mais Hector l'examinait avec émotion. C'était donc là ce Bourdenave, ce montreur de femmes qui les traitait en garde-chiourme, ce cerveau toujours fumant de quelques réclames, criant, crachant, se tapant sur les cuisses, cynique et ayant un esprit de gendarme. Hector crut qu'il devait chercher une phrase aimable. « Votre théâtre » commença-t-il d'une voix flûtée. Bourdenave l'interrompit tranquillement d'un mot cru en homme qui aime les situations franches. « Dites, mon bordel !» Alors Fauchery eut un rire approbatif, tandis que la Faloise restait, avec son compliment, étranglée dans la gorge, très choquée, essayant de paraître goûter le mot. Le directeur s'était précipité pour donner une poignée de main à un critique dramatique dont le feuilleton avait une grande influence. Quand il revint, la Faloise se remettait. Il craignait d'être traité de provincial s'il se montrait trop interloqué. « On m'a dit, » recommença-t-il, voulant absolument trouver quelque chose, « que Nana avait une voix délicieuse. »« Elle ! » s'écria le directeur en haussant les épaules. « Une vraie seringue !» Le jeune homme se hâta d'ajouter, « Du reste, excellente comédienne !»« Elle ! Un paquet ! Elle ne sait où mettre les pieds et les mains !» La Faloise rougit légèrement. Il ne comprenait plus. Il balbutia, « Pour rien au monde, je n'aurais manqué la première de ce soir. Je savais que votre théâtre... »« Dites mon bordel !» interrompit de nouveau Bourdenave avec le froid entêtement d'un homme convaincu. Cependant, Fauchery, très calme, regardait les femmes qui entraient. Il vint au secours de son cousin lorsqu'il le vit béant, ne sachant s'il devait rire ou se fâcher. « Fais donc plaisir à Bourdenave. Appelle son théâtre comme il te le demande, puisque ça l'amuse. Et vous, mon cher, ne nous faites pas poser. Si votre nana ne chante ni ne joue, vous aurez un four, voilà tout. C'est ce que je crains, d'ailleurs. »« Un four ! Un four ! » cria le directeur dont la face s'empourprait. « Est-ce qu'une femme a besoin de savoir jouer et chanter ? Ah, mon petit, tu es trop bête ! Nana, autre chose, parbleu, et quelque chose qui remplace tout. Je l'ai flairée, c'est joliment fort chez elle, ou je n'ai plus que le nez d'un imbécile. Tu verras, elle n'a qu'à paraître, toute la salle tirera la langue. » Il avait levé ses grosses mains qui tremblaient d'enthousiasme, et, soulagé, il baissait la voix, il grognait pour lui seul. « Oui, elle ira loin. Ah, sacredier, oui, elle ira loin. Une peau, oh, une peau !» Puis, Comme Fauchery l'interrogeait, il consentit à donner des détails, avec une crudité d'expression qui gênait Hector de la Faloise. Il avait connu Nana et il voulait la lancer. Justement, il cherchait alors une Vénus. Lui ne s'embarrassait pas longtemps d'une femme. Il aimait mieux en faire tout de suite profiter le public. Mais il avait un mal de chien dans sa baraque que la venue de cette grande fille révolutionnait. Rose Mignon, son étoile, une fine comédienne et une adorable chanteuse, celle-là, menaçait chaque jour de le laisser en plan, furieuse, devinant une rivale. Et pour la fille, quel bousin, grand Dieu! Enfin, il s'était décidé à mettre les noms des deux actrices en lettres d'égale grosseur. Il ne fallait pas qu'on l'ennuyât. Lorsqu'une de ces petites femmes, comme il les nommait, Simone ou Clarisse, ne marchait pas droit, il lui allongeait un coup de pied dans le derrière. Autrement, pas moyen de vivre. Il en vendait, il savait ce qu'elles valaient, les garces. « Tiens, » dit-il en s'interrompant, « Mignon et Stenner, toujours ensemble. Vous savez que Stenner commence à avoir de roses par-dessus la tête. Aussi, le mari ne le lâche-t-il plus d'une semelle, de peur qu'il ne file. » Sur le trottoir, la rampe de gaz qui flambait à la corniche du théâtre jetait une nappe de vive clarté. Deux petits arbres se détachaient nettement d'un vert cru. Une colonne blanchissait, si vivement éclairée, qu'on y lisait de loin les affiches, comme en plein jour. Et au-delà, la nuit épaissie du boulevard se piquait de feu, dans le vague d'une foule toujours en marche. Beaucoup d'hommes n'entraient pas tout de suite, restaient dehors à causer en achevant un cigare, sous le coup de lumière de la rampe, qui leur donnait une pâleur blême et découpait sur l'asphalte leurs courtes ombres noires. Mignon, un gaillard très grand, très large, avec une tête carrée d'Hercule de foire, s'ouvrait un passage au milieu des groupes, traînant à son bras le banquier Stenner, tout petit, le ventre déjà gros, la face ronde et encadrée d'un collier de barbe grisonnante. « Eh bien, » dit Bordenave au banquier, « vous l'avez rencontrée hier dans mon cabinet. »« Ah, c'était elle !» s'écria Stenner. « Je m'en doutais. Seulement, je sortais comme elle entrait. Je l'ai à peine entrevue. » Mignon écoutait, les paupières baissées, faisant tourner nerveusement à son doigt un gros diamant. Il avait compris qu'il s'agissait de Nana. Puis, comme Bordenave donnait de sa débutante un portrait qui mettait une flamme dans les yeux du banquier, il finit par intervenir. « Laissez donc, mon cher, une roulure. Le public va joliment la reconduire. Stenner, mon petit, vous savez que ma femme vous attend dans sa loge. » Il voulut le reprendre, mais Stenner refusait de quitter Bordenave. Devant eux, une queue s'écrasait au contrôle. Un tapage de voix montait, dans lequel le nom de Nana sonnait avec la vivacité chantante de ses deux syllabes. Les hommes, qui se plantaient devant les affiches, l'épelaient à voix haute. D'autres le jetaient en passant sur un ton d'interrogation. Tandis que les femmes, inquiètes et souriantes, le répétaient doucement d'un air de surprise. Personne ne connaissait Nana. D'où Nana tombait-elle? Et des histoires couraient, des plaisanteries chuchotées d'oreille à oreille. C'était une caresse que ce nom, un petit nom dont la familiarité allait à toutes les bouches. Rien qu'à le prononcer ainsi, la foule s'égayait et devenait bon enfant. Une fièvre de curiosité poussait le monde, cette curiosité de Paris qui a la violence d'un accès de folie chaude. On voulait voir Nana. Une dame eut le volant de sa robe arraché. Un monsieur perdit son chapeau. « Ah, vous m'en demandez trop !» cria Bordenave, qu'une vingtaine d'hommes assiégeaient de questions. « Vous allez la voir. Je file, on a besoin de moi. » Il disparut, enchanté d'avoir allumé son public. Mignon haussait les épaules en rappelant à Sténère que Rose l'attendait pour lui montrer son costume du premier acte. « Tiens, Lucie là-bas qui descend de voiture !» dit la Faloise à Fauchery. C'était Lucie Stewart. En effet, une petite femme laide, d'une quarantaine d'années, le cou trop long, la face maigre, tirée avec une bouche épaisse, mais si vive, si gracieuse, qu'elle avait un grand charme. Elle amenait Caroline et Kay et sa mère. Caroline, d'une beauté froide, la mère très digne, l'air empaillé. « Tu viens avec nous, je t'ai réservé une place, » dit-elle à Fauchery. « Ah non, par exemple, pour ne rien voir, » répondit-il. « J'ai un fauteuil, j'aime mieux être à l'orchestre. » Lucie se fâcha. Est-ce qu'il n'osait pas se montrer avec elle? Puis, calmé, brusquement, sautant à un autre sujet. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu connaissais Nana ?»« Nana? Je ne l'ai jamais vue. »« Bien vrai? On m'a juré que tu avais couché avec. » Mais devant eux, Mignon, un doigt aux lèvres, leur faisait signe de se taire. Et sur une question de Lucie, il montra un jeune homme qui passait en murmurant « Le greluchon de Nana !» Tous le regardèrent. Il était gentil. Fauchery le reconnut. C'était Daguenet, un garçon qui avait mangé 300 000 francs avec les femmes et qui, maintenant, bibelotait à la bourse pour leur payer des bouquets et des dîners de temps à autre. Lucie lui trouva de beaux yeux. « Ah, voilà Blanche » cria-t-elle. « C'est elle qui m'a dit que tu avais couché avec Nana. » Blanche de Civry, une grosse fille blonde, dont le joli visage s'empâtait, arrivait en compagnie d'un homme fluet, très soigné, d'une grande distinction. « Le comte Xavier de Vandœuvre !» souffla Fauchery à l'oreille de la Faloise. Le comte échangea une poignée de main avec le journaliste, tandis qu'une vive explication avait lieu entre Blanche et Lucie. Elles bouchaient le passage de leurs jupes chargées de volants, l'une en bleu, l'autre en rose, et le nom de Nana revenait sur leurs lèvres, si aiguë que le monde les écoutait. Le comte de Vandœuvre emmena Blanche. Mais, à présent, comme un écho, Nana sonnait aux quatre coins du vestibule, sur un ton plus haut, dans un désir accru par l'attente. On ne commençait donc pas. Les hommes tiraient leurs montres, des retardataires sautaient de leur voiture avant qu'elles fussent arrêtées, des groupes quittaient le trottoir, ou les promeneurs lentement traversaient la nappe de gaz restée vide, en allongeant le cou pour voir dans le théâtre. Un gamin qui arrivait en sifflant se planta devant une affiche à la porte. Puis il cria « Ohé, Nana !» d'une voix de rogomme et poursuivit son chemin, déhanché, traînant ses savates. Un rire avait couru. Des messieurs très bien répétèrent « Nana, ohé, Nana !» On s'écrasait. Une querelle éclatait au contrôle. Une clameur grandissait, faite du bourdonnement des voix appelant Nana, exigeant Nana, dans un de ces coups d'esprit bêtes et de brutale sensualité qui passent sur les foules. Mais, au-dessus du vacarme, la sonnette de l'entracte se fit entendre. Une rumeur gagna jusqu'au boulevard. « On a sonné ! On a sonné !» Et ce fut une bousculade. Chacun voulait passer, tandis que les employés du contrôle se multipliaient. Mignon, l'air inquiet, reprit enfin Sténère, qui n'était pas allé voir le costume de Rose. Au premier tintement, la Faloise avait fendu la foule en entraînant Fauchery pour ne pas manquer l'ouverture. Cet empressement du public irrita Lucie Stewart. En voilà de grossiers personnages qui poussaient les femmes. Elle resta la dernière avec Caroline Eke et sa mère. Le vestibule était vide. Au fond, le boulevard gardait son ronflement prolongé. « Comme si c'était toujours drôle, leur pièce !» répétait Lucie en montant l'escalier. Dans la salle, Fauchery et la Faloise, devant leur fauteuil, regardaient de nouveau. Maintenant, la salle resplendissait. De hautes flammes de gaz allumaient le grand lustre de cristal d'un ruissellement de feux jaunes et roses qui se brisait du cintre au parterre en une pluie de clarté. Les velours grenats des sièges se moiraient de laque, tandis que les ors luisaient et que les ornements vert-tendres en adoucissaient l'éclat sous les peintures trop crues du plafond. Haussée, la rampe, dans une nappe brusque de lumière, incendiait le rideau, dont la lourde draperie de pourpre avait une richesse de palais fabuleux, jurant avec la pauvreté du cadre, où des lézardes montraient le plâtre sous la dorure. Il faisait déjà chaud. À leur pupitre, les musiciens accordaient leurs instruments, avec des trilles légers de flûte, des soupirs étouffés de cors, des voix chantantes de violon, qui s'envolaient au milieu du brouhaha grandissant des voix. Tous les spectateurs parlaient, se poussaient, se casaient dans l'assaut donné aux places. Et la bousculade des couloirs était si rude que chaque porte lâchait péniblement un flot de monde intarissable. C'étaient des signes d'appel, des froissements d'étoffes, un défilé de jupes et de coiffures, coupés par le noir d'un habit ou d'une redingote. Pourtant, les rangées de fauteuils s'emplissaient peu à peu. Une toilette claire se détachait, une tête au fin profil baissait son chignon ou courait l'éclair d'un bijou. Dans une loge, un coin d'épaule nu avait une blancheur de soie. D'autres femmes, tranquilles, s'éventaient avec langueur en suivant du regard les poussées de la foule. Pendant que de jeunes messieurs, debout à l'orchestre, le gilet largement ouvert, un gardénia à la boutonnière, braquaient leurs jumelles du bout de leurs doigts gantés. Alors, les deux cousins cherchèrent les figures de connaissance. Mignon et Sténère étaient ensemble, dans une baignoire, les poignets appuyés sur le velours de la rampe, côte à côte. Blanche de Sivry semblait occuper à elle seule une avant-scène du rez-de-chaussée. Mais la Faloise examina surtout Daguenet, qui avait un fauteuil d'orchestre, deux rangs en avant du sien. Près de lui, un tout jeune homme, de 17 ans au plus, quelque échappé de collège, ouvrait très grand ses beaux yeux de chérubin. Fauchery eut un sourire en le regardant. « Quelle est donc cette dame au balcon ?» demanda tout à coup la Faloise. « Celle qui a une jeune fille en bleu près d'elle. » Il indiquait une grosse femme, sanglée dans son corset, une ancienne blonde devenue blanche et teinte en jaune, dont la figure ronde, rougie par le fard, se boursouflait sous une pluie de petits frisons enfantins. « C'est Gaga, » répondit simplement Fauchery. Et comme ce nom semblait ahurir son cousin, il ajouta « Tu ne connais pas Gaga? Elle a fait les délices des premières années du règne de Louis-Philippe. Maintenant, elle traîne partout sa fille avec. » La Faloise n'eut pas un regard pour la jeune fille. La vue de Gaga l'émotionnait. Ses yeux ne la quittaient plus. Il la trouvait encore très bien, mais il n'osa pas le dire. Cependant, le chef d'orchestre levait son archet, les musiciens attaquaient l'ouverture. On entrait toujours, l'agitation et le tapage croissaient. Parmi ce public spécial des premières représentations, qui ne changeait pas, il y avait des coins d'intimité où l'on se retrouvait en souriant. Des habitués, le chapeau sur la tête, à l'aise et familiers, échangeaient des saluts. Paris était là. Le Paris des lettres, de la finance et du plaisir, beaucoup de journalistes, quelques écrivains, des hommes de bourse, plus de filles que de femmes honnêtes. Monde singulièrement mêlé, fait de tous les génies, gâté par tous les vices, où la même fatigue et la même fièvre passaient sur les visages. Fauchery, que son cousin questionnait, lui montra l'éloge des journaux et des cercles, puis il nomma les critiques dramatiques, un maigre, l'air desséché, avec de minces lèvres méchantes, et surtout un gros, de mine bon enfant, se laissant aller sur l'épaule de sa voisine, une ingénue qu'il couvait d'un œil paternel et tendre. Mais il s'interrompit en voyant la Faloise saluer des personnes qui occupaient une loge de face. Il parut surpris. « Comment ? » demanda-t-il. « Tu connais le comte Muffa de Beuville ?»« Oh, depuis longtemps !» répondit Hector. « Les Muffa avaient une propriété près de la nôtre. Je vais souvent chez eux. Le comte est avec sa femme et son beau-père, le marquis de Choire. » Et par vanité, heureux de l'étonnement de son cousin, il appuya sur des détails. Le marquis était conseiller d'État. Le comte venait d'être nommé chambellan de l'impératrice. Fauchery, qui avait pris sa jumelle, regardait la comtesse, une brune à la peau blanche, potelée, avec de beaux yeux noirs. « Tu me présenteras pendant un entr'acte, » finit-il par dire. « Je me suis déjà rencontré avec le comte, mais je voudrais aller à leur mardi. » Des « chut » énergiques partirent des galeries supérieures. L'ouverture était commencée, on entrait encore. Des retardataires forçaient des rangées entières de spectateurs à se lever, les portes des loges battaient, de grosses voix se querellaient dans les couloirs. Et le bruit des conversations ne cessait pas, pareil au piaillement d'une nuée de moineaux bavards lorsque le jour tombe. C'était une confusion, un fouillis de têtes et de bras qui s'agitaient, les uns s'asseyant et cherchant leurs aises, les autres s'entêtant à rester debout pour jeter un dernier coup d'œil. Le cri « Assis ! Assis !» sortit violemment des profondeurs obscures du parterre. Un frisson avait couru. Enfin, on allait donc connaître cette fameuse nana dont Paris s'occupait depuis 8 jours. Peu à peu, cependant, les conversations tombaient, mollement, avec des reprises de voix grasses. Et au milieu de ce murmure pâmé, de ces soupirs mourants, l'orchestre éclatait en petites notes vives, une valse dont le rythme canaille avait le rire d'une polissonnerie. Le public, chatouillé, souriait déjà. Mais la claque au premier banc du parterre tapa furieusement des mains. Le rideau se levait. « Tiens !» dit la Faloise qui causait toujours. « Il y a un monsieur avec Lucie. » Il regardait l'avant-scène de balcon à droite dont Caroline et Lucie occupaient le devant. Dans le fond, on apercevait la face digne de la mère de Caroline et le profil d'un grand garçon, à belle chevelure blonde, d'une tenue irréprochable. « Vois donc !» répétait la Faloise avec insistance. « Il y a un monsieur !» Fauchery se décida à diriger sa jumelle vers l'avant-scène. Mais il se détourna tout de suite. « Oh, c'est la Bordette » murmura-t-il d'une voix insouciante, comme si la présence de ce monsieur devait être pour tout le monde naturelle et sans conséquence. Derrière eux, on cria « Silence !» Ils durent se taire. Maintenant, une immobilité frappait la salle. Des nappes de têtes, droites et attentives, montaient de l'orchestre à l'amphithéâtre. Le premier acte de la blonde Vénus se passait dans l'Olympe, un Olympe de carton, avec des nuées pour coulisses et le trône de Jupiter à droite. C'était d'abord Iris et Ganymède, aidés d'une troupe de serviteurs célestes, qui chantaient un chœur en disposant les sièges des dieux pour le conseil. De nouveau, les bravos réglés de la claque partirent tout seuls. Le public, un peu dépaysé, attendait. Cependant, la Faloise avait applaudi Clarisse Bénu, une des petites femmes de Bordenave, qui jouait Iris en bleu tendre, une grande écharpe aux 7 couleurs nouée à la taille. « Tu sais qu'elle retire sa chemise pour mettre ça ?» dit-il à Fauchery, de façon à être entendu. « Nous avons essayé ça ce matin. On voyait sa chemise sous les bras et dans le dos. » Mais un léger frémissement agita la salle. Rose Mignon venait d'entrer en Diane. Bien qu'elle n'eût ni la taille ni la figure du rôle, maigre et noire, d'une laideur adorable de gamin parisien, elle parut charmante, comme une raillerie même du personnage. Son air d'entrée, des paroles bêtes à pleurer, où elle se plaignait de Mars, qui était en train de la lâcher pour Vénus, fut chantée avec une réserve pudique si pleine de sous-entendus égrillards que le public s'échauffa. Le mari et Steiner, coude à coude, riaient complaisamment. Et toute la salle éclata lorsque Prullière, cet acteur si aimé, se montra en général, un Mars de la Courtille, empanaché d'un plumet géant, traînant un sabre qui lui arrivait à l'épaule. Lui avait assez de Diane. Elle faisait trop sa poire. Alors, Diane jurait de le surveiller et de se venger. Le duo se terminait par une tyrolienne bouffonne que Prullière enleva très drôlement d'une voix de matou irrité. Il avait une fatuité amusante de jeune premier en bonne fortune et roulait des yeux de bravache qui soulevaient des rires aigus de femmes dans les loges. Puis, le public redevint froid. Les scènes suivantes furent trouvées ennuyeuses. C'est à peine si le vieux Bosque, un Jupiter imbécile, la tête écrasée sous une couronne immense, dérida un instant le public. Lorsqu'il eut une querelle de ménage avec Junon, à propos du compte de leur cuisinière. Le défilé des dieux, Neptune, Pluton, Minerve et les autres, faillit même tout gâter. On s'impatientait. Un murmure inquiétant grandissait lentement. Les spectateurs se désintéressaient et regardaient dans la salle. Lucie riait avec la Bordette. Le comte de Vandœuvre allongeait la tête derrière les fortes épaules de Blanche, tandis que Fauchery, du coin de l'œil, examinait les muffas. Le comte, très grave, comme s'il n'avait pas compris, la comtesse, vaguement souriante, les yeux perdus, rêvant. Mais, brusquement, dans ce malaise, les applaudissements de la claque crépitèrent avec la régularité d'un feu de peloton. On se tourna vers la scène. Était-ce Nana, enfin ? Cette Nana se faisait bien attendre. C'était une députation de mortels que Ganymède et Iris avaient introduite. Des bourgeois respectables, tous maris trompés, et venant présenter au maître des dieux une plainte contre Vénus, qui enflammait vraiment leur femme de trop d'ardeur. Le cœur, sur un ton dolent et naïf, coupé de silence plein d'aveux, amusa beaucoup. Un mot fit le tour de la salle. « Le cœur des cocus ! Le cœur des cocus !» Et le mot devait rester. On cria « bis ». Les têtes des choristes étaient drôles, on leur trouvait une figure à ça, un gros surtout, la face ronde comme une lune. Cependant, Vulcain arrivait, furieux, demandant sa femme, filée depuis 3 jours. Le cœur reprenait, implorant Vulcain, le dieu des cocus. Ce personnage de Vulcain était joué par Fontan, un comique d'un talent canaille et original, qui avait un déhanchement d'une fantaisie folle, en forgeron de village, la perruque flambante, les bras nus, tatoués de cœurs percés de flèches. Une voix de femme laissa échapper, très haut, « Ah, qu'il est laid !» et toutes riaient en applaudissant. Une scène ensuite sembla interminable. Jupiter n'en finissait pas d'assembler le conseil des dieux, pour lui soumettre la requête des maris trompés. Et toujours pas de Nana. On gardait donc Nana pour le baisser du rideau. Une attente si prolongée avait fini par irriter le public. Les murmures recommençaient. « Ça va mal, » dit Mignon, radieux à Steiner. « Un joli attrapage, vous allez voir. » À ce moment, les nuées au fond s'écartèrent et Vénus parut. Nana, très grande, très forte pour ses 18 ans, dans sa tunique blanche de déesse, ses longs cheveux blonds simplement dénoués sur les épaules, descendit vers la rampe, avec un aplomb tranquille, en riant au public. Et elle entama son grand air. Lorsque Vénus rôde le soir. Dès le second vers, on se regardait dans la salle. Était-ce une plaisanterie? Quelque gageur de bord de nave? Jamais on n'avait entendu une voix aussi fausse, menée avec moins de méthode. Son directeur la jugeait bien, elle chantait comme une seringue, et elle ne savait même pas se tenir en scène. Elle jetait les mains en avant, dans un balancement de tout son corps, qu'on trouva peu convenable et disgracieux. Des « oh, oh » s'élevaient déjà du parterre et des petites places. On sifflotait, lorsqu'une voix de jeune coq, en train de muer au fauteuil d'orchestre, lança avec conviction « Très chic !» Toute la salle regarda. C'était le chérubin, l'échappé de collège, ses beaux yeux écarquillés, sa face blonde enflammée par la vue de Nana. Quand il vit le monde se tourner vers lui, il devint très rouge d'avoir ainsi parlé haut, sans le vouloir. Daguenet, son voisin, l'examinait avec un sourire. Le public riait, comme désarmé et ne songeant plus à siffler. Tandis que les jeunes messieurs en gants blancs, empoignés eux aussi par le galbe de Nana, se pâmaient, applaudissaient. « C'est ça, très bien, bravo !»